VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
16h à Conakry, midi à Washington. Bonsoir, bienvenue. En Guinée, des heurts ont opposé aujourd'hui les forces de l'ordre guinéennes et les jeunes manifestants à l'appel de l'opposition contre le calendrier électoral à Conakry. Ces violences interviennent à la veille d'une rencontre entre le président Alpha Condé et le chef de l'opposition, l'ex-premier ministre Sélou Daley Ndiallo. Après plus d'un mois de bras de fer, une rencontre selon l'opposant Sélou Ndiallo, joint aujourd'hui par VOA Afrique, il affirme que les forces de l'ordre qui encerclent sa maison l'empêchent de sortir de chez lui. Le domicile de l'opposant Sidia Diallo, Sidia Touré, est également cerné par les forces de l'ordre. On écoute Sélou Daley Ndiallo.
Avant-hier, lorsque j'ai reçu l'invitation, je me réjouissais plutôt pour pouvoir le rencontrer et discuter justement des divergences qui nous opposent, non seulement par rapport au processus électoral, mais par rapport à certaines questions relatives à sa gouvernance. Mais compte tenu de la séquestration dont j'ai été l'objet aujourd'hui, ma famille, moi et mes collaborateurs, et comme les autres leaders de l'opposition, comme Sidia Touré, vraiment je me pose la question sur l'opportunité de répondre à cette invitation. Ce n'est pas un bon signal. On ne peut pas inviter le chef de file de l'opposition et le faire séquestrer.
Le chef de l'opposition guinéenne, Sélou Daley Ndiallo, au micro de Nicolas Pinault. Accusation de viol de militaires français sur des mineurs en Centrafrique. La justice française accélère. Ce jeudi, le procureur de la République à Paris a annoncé que le juge d'instruction allait enquêter sur cette affaire. Nicolas Pinault.
Oui, le procureur François Molin explique que l'information judiciaire a été ouverte pour viol sur mineur par personne abusant de l'autorité conférée par leur fonction et complicité de ce crime. Dans cette affaire, 14 militaires français sont mis en cause. 3 ont déjà été identifiés par les témoignages de 6 enfants centrafricains âgés entre 9 et 13 ans au moment des faits. Ces militaires français faisaient partie de la force Sangaris déployée à l'aéroport Mpoko de Bangui. C'est la deuxième fois que le parquet de Paris s'intéresse à cette affaire. Après avoir été saisi par le ministère français de la Défense, le parquet avait ouvert une première enquête préliminaire fin juillet 2014. Aucun enfant ni aucun militaire mis en cause n'avait été entendu. Dans son communiqué, le parquet explique qu'il a d'abord voulu entendre la fonctionnaire de l'ONU, rédactrice du rapport, mais que la demande de levée d'immunité nécessaire à cette audition a été refusée par les Nations Unies. La fonctionnaire onusienne a finalement répondu par écrit et cette réponse est arrivée le 29 avril, selon le parquet.
Au Burundi, au moins un mort et 3 blessés dans les nouvelles manifestations antigouvernementales à Bujumbura. Un sommet régional va se tenir le 13 mai en Tanzanie pour tenter d'enrayer la crise dans le pays. Le point, Eddy Isango.
C'est Bernard Membe, ministre tanzanien des Affaires étrangères, qui a annoncé ce sommet extraordinaire de la communauté d'Afrique de l'Est le 13 mai à Dar es Salaam. C'était suite à la visite des 4 ministres des Affaires étrangères de la région à Bujumbura, où ils ont rencontré les présidents Nkurunziza, puis des leaders de la société civile et des partis politiques. Les chefs de l'État, Pierre Nkurunziza, déjà élu en 2005 par les parlements et réélu en 2010 au suffrage universel direct, a été investi le 25 avril par son parti, les CNDD-FDD, pour briguer un troisième mandat. Depuis, les manifestations quotidiennes sont sévèrement réprimées par les forces de l'ordre. Les violences ont fait 14 morts depuis le début des manifs, craignant les pires. Près de 25 000 Burundais ont fui pour se réfugier au Rwanda et en RDC.
La justice égyptienne va se prononcer le 4 juin au sujet d'un appel du parquet contre l'abandon des charges dont avait bénéficié l'ancien président Hosni Moubarak dans l'un de ses procès. En novembre, un tribunal avait blanchi l'ancien chef d'État en retirant l'accusation de complicité de meurtre pour la mort de centaines de manifestants durant la révolte de 2011 qu'il a chassé du pouvoir.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé un nouveau gouvernement de coalition. Le cabinet a été annoncé hier soir après un accord de dernière minute avec l'extrême droite juste avant l'échéance de minuit. Félix Yepassi Zembrou.
La formation du nouveau gouvernement intervient après 7 semaines de négociations. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a été désigné pour former le gouvernement après que son parti, le Likoud, eut défait aux élections de mars l'alliance de l'opposition menée par le Parti travailliste. Le chef de file des travaillistes, Isaac Herzog, avait déjà dit qu'il ne ferait pas partie de la nouvelle coalition. Le nouveau gouvernement s'appuie sur une marge majoritaire d'un seul siège au Parlement avec 61 députés. M. Netanyahou avait espéré former une grande coalition, mais son ancien allié de droite, le ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, a fait faux bond lors des négociations. En conséquence, M. Netanyahou a été obligé de s'allier avec les partis religieux ultra-orthodoxes et l'aile dure du parti Israël, notre nation, de l'ancien ministre de l'économie Naftali Bennett, qui préconise l'expansion des colonies juives et l'annexion de la Cisjordanie palestinienne. Le nouveau gouvernement suscite peu d'espoir quant à une relance du processus de paix au Moyen-Orient. Celui-ci est au point mort depuis l'effondrement, il y a un an, de négociations parrainées par les États-Unis et la guerre de 50 jours entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. La campagne électorale en Israël avait surtout porté sur les questions intérieures, telles que la hausse du coût de la vie et l'écart croissant entre riches et pauvres.
Et les bureaux de vote sont ouverts depuis ce matin au Royaume-Uni pour des élections locales et législatives. 45 millions de Britanniques vont choisir leurs représentants au Parlement et dans diverses assemblées. Morgan Guiriek.
Plus de 3900 candidats dans 650 circonscriptions ont fait de la surenchère verbale. La Grande-Bretagne doit choisir entre le conservateur David Cameron, qui brigue un second mandat de 5 ans, et son challenger, le travailliste Ed Miliband. Les sondages projettent des résultats très serrés. Si les conservateurs l'emportent, ils veulent organiser un référendum pour rester ou quitter l'Union européenne. Une victoire des nationalistes écossais pourrait les encourager à revendiquer un nouveau référendum d'indépendance après le rendez-vous manqué de septembre.
L'Arabie saoudite, qui dirige une campagne aérienne contre les rebelles chiites au Yémen, a proposé ce jeudi un cessez-le-feu de 5 jours pour permettre l'acheminement d'une aide humanitaire à la population durement affectée par la guerre. Et les autorités américaines et saoudiennes ont convenu d'une pause humanitaire donc dans le pays au Yémen. Bagassi Koura nous en dit davantage.
Lors d'une conférence de presse ce jeudi, le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue saoudien Abdel Al-Jubeir ont indiqué que les efforts étaient en cours pour mettre en place un cessez-le-feu de 5 jours au Yémen afin de pouvoir acheminer l'aide humanitaire. Ce cessez-le-feu serait renouvelable en fonction des conditions sur le terrain, ont-ils précisé. Pour John Kerry, la trêve dépend largement de son acceptation par les rebelles houthis. Nous exhortons les houthis et ceux qui les soutiennent, à qui nous suggérons d'utiliser toute leur influence, de ne pas manquer cette importante opportunité de répondre aux besoins de la communauté yéménite et de trouver une solution pacifique au Yémen. Le ministre saoudien des Affaires étrangères a reconnu qu'il n'y avait pas encore eu de contact avec les houthis pour savoir s'ils accepteraient le cessez-le-feu.
Irak, les militants de l'État islamique contrôlent partiellement la raffinerie de pétrole de Baji, non loin de Mossoul. C'est ce qu'annonce le Pentagone, en soulignant que le contrôle de la plus importante raffinerie pétrolière du pays donne aux djihadistes un avantage stratégique dans la lutte pour Mossoul, la seconde ville irakienne. Les troupes irakiennes tiennent encore une partie de la raffinerie, mais il leur faudrait un effort militaire considérable pour chasser les djihadistes de l'installation, a déclaré en substance un porte-parole militaire américain. Ici même aux États-Unis, la collecte massive de données téléphoniques opérée par l'Agence de sécurité nationale américaine, la NSA, est illégale. C'est ce qu'a jugé aujourd'hui la Cour d'appel américaine, estimant qu'elle outrepassait le cadre fixé par le Congrès. Les lois sur lesquelles s'est appuyée la NSA pour mettre en place cette collecte n'ont jamais été interprétées pour autoriser quelque chose qui s'approche de l'ampleur de la surveillance généralisée. En question ici, a estimé la justice dans un document de 97 pages. Et pour terminer, un vote de procédure main capitale est prévu aujourd'hui pour obliger Barack Obama à soumettre tout éventuel accord nucléaire avec l'Iran au Congrès cet été, affirmant ainsi le rôle de supervision des parlementaires malgré la réticence de l'exécutif. Ce vote de procédure est prévu vers 18h GMT et selon le sénateur républicain Bob Corker, qui gère la législation dite Corker-Menendez, l'adoption finale par le Sénat pourrait avoir lieu dans la foulée, bien que ce ne soit pas encore confirmé. Barack Obama s'opposait initialement à ce que le Congrès ait un mot à dire sur l'accord définitif qui doit être paraphé d'ici le 30 juin en Téhéran. Occident et le groupe 5+1. Les négociations sont prévues pour reprendre le 12 mai à Vienne. Jean-Roger Billon à ce microphone, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans environ 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info.